Le quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM, RGB et RCF Limousin.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 53e numéro du quart d'heure corrézien. Je m'appelle Olivier Serrac et je vous propose cette semaine un numéro spécial parce que durant les 15 prochaines minutes, nous reviendrons ensemble sur l'inauguration des médaillons du haut lieu de mémoire de Queuil à Tulle. Un site très particulier parce que c'est ici qu'au lendemain du 9 juin 1944, les corps des 99 hommes pendus par la division d'Astreich vont être ensevelis. Aujourd'hui donc, en plus des noms des victimes et des 149 autres qui ont été déportés vers les camps de la mort, les visages de ces martyrs sont inscrits sur des médaillons de porcelaine. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu ? C'est parti ! Il y a 80 ans, le débarquement américain en Normandie bouleverse les équilibres de la guerre en Europe. À Montauban, il est une division nazie qui y est stationnée. C'est la division SS de la Das Reich. Si elle est dans le Tarn-et-Garonne à ce moment-là, c'est parce qu'elle tente de reconstituer ses forces. Mobilisée sur le front de l'Est, elle a perdu de nombreux éléments face aux offensives russes. En avril 44, d'ailleurs, elle recevra les honneurs d'Heinrich Himmler qui viendra sur place. C'est le troisième personnage de l'Allemagne nazie et commandant suprême des SS. Or, si le 6 juin 44, les Alliés débarquent en Normandie face à ce nouveau front, les nazis se réorganisent. La division Das Reich reçoit l'ordre de remonter en direction du front normand. Sa principale mission est de reproduire ce qu'elle a fait sur le front de l'Est, à savoir terroriser les populations civiles par des pillages, des incendies, des exécutions sommaires et des rafles massives. Entre le 1er mai et le 16 juillet 1944, pas moins de 124 lieux d'exaction en France sont identifiés comme ayant subi la terreur de la Das Reich. À Tulle, ce 9 juin 1944, la ville vient de connaître deux journées durant lesquelles les combats entre maquisards et armées d'occupation ont été rudes. La veille, le 8 juin, l'école normale des institutrices est ciblée par la résistance corrézienne. Dans l'école se trouve notamment une garnison allemande et des policiers de la Gestapo aussi. Vers 15h, l'école est incendiée, poussant les dignitaires nazis à se rendre. Mais vers 21h, deux colonnes de la Das Reich arrivent, l'une par la route de Beaulieu, l'autre par la route de Brive. Et en quelques heures, toutes les voies de communication sont bloquées. Les résistants, encore dans Tulle, sont encerclés. Ce n'est que le lendemain matin, dès le lever du jour, que le massacre de Tulle s'organise. Les nazis raflent 3000 hommes de 18 à 60 ans qu'ils réunissent sur la place de Souillac. Vers 9h, les hommes sont triés en deux, puis trois colonnes distinctes. Un tri long, véritablement injuste parce que fait totalement par hasard. L'attaque de l'école normale des institutrices ayant fait 40 morts du côté allemand, ces derniers désignent 120 innocents pour être pendus. D'âpres négociations vont ramener ce chiffre à 99 hommes. Ils seront donc pendus au balcon de Souillac et au lampadaire de la ville. Parmi ces suppliciés, le beau-père de Monique.
Le papa de mon mari était pendu. Il s'appelait Charles Godillon. Il avait 34 ans. Et mon mari ne l'a pas connu parce qu'il n'était pas encore né. Il est que né au mois de septembre 1944. Donc c'est, pour lui c'était un traumatisme et je l'ai toujours soutenu parce qu'il avait beaucoup d'anxiété, il avait un chagrin qui n'est jamais sorti. Et voilà, donc on a toujours fait corps tous les deux et on marque toujours les cérémonies quand c'est le moment.
Le fils de Charles Godillon s'appelle Charles, lui aussi. Il a 80 ans aujourd'hui et n'a jamais réussi, vous l'aurez compris, à parler de ce qu'il s'est passé ce 9 juin 44 parce que le traumatisme a été énorme.
Mais l'image de mon père, pour moi qui ne l'ai pas connu, c'est horrible. Horrible, pas horrible de voir sa photo, parce que j'ai pas honte de voir la photo de mon père, bien au contraire. Ce qui est horrible, c'est de ne l'avoir jamais connu. Et quand on ne connaît pas son père, eh bien, il y a un manque, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, voilà, c'est surtout ça. Je pense sans arrêt à ce qui s'est passé à Tulle, de ce drame, et puis je fais toujours le rapprochement, qu'est-ce qui se passe ailleurs. On se demande comment la société peut supporter des atrocités de partout. Finalement, rien ne change. C'est ça qui est grave.
Un traumatisme qui poursuit Charles Godillon depuis sa naissance, sans jamais parvenir à s'en débarrasser.
D'avoir été pupille de la nation, ça m'a toujours... comment je peux m'exprimer je me sentais, par rapport aux autres, différent. Je n'aimais pas les regards qui allaient vers mon regard. Je n'aimais pas la pitié. Et en plus, quand, quoi qu'on puisse dire, quand on n'a pas son père, quand on est dans des usines, à l'école, tout le monde dit on va faire quelque chose pour ceux qui ont souffert. À l'arrivée, tout le monde vous laisse tomber.
Alors l'homme s'est tu sur son histoire, ses blessures. Ce n'est que maintenant, 80 ans après, qu'il commence à peine à s'ouvrir.
Je commence à en parler il y a un an à peu près. Je n'ai jamais parlé là. C'est pour ça que quelquefois je vais dans les écoles ou enfin. Des fois, je dis aux jeunes ce que je ressens, mon ressenti. Mais c'est une omerta chez moi et je ne sais pas. Non, on n'osait pas parler de ça. Non, on n'en parlait pas entre nous. Par exemple, pour le 9 juin, interdiction de regarder la télévision. Il n'y a pas de télévision à la maison. Alors là, ma mère mettait de l'ordre.
Roland Gognaud est le président du comité des martyrs de Tulle. Ce silence autour du massacre tulliste, lui aussi l'a connu. Mais ce n'est qu'avec le temps qu'il a pu lui aussi comprendre et donc le briser.
Mon grand-père a été le président fondateur du comité des martyrs. Et il avait d'ailleurs Antoine Soulier comme secrétaire. Ils ont tous les deux été touchés, j'allais dire, dans leur chair, par effectivement la pendaison de leurs fils respectifs. Mais bon, il est certain qu'à partir de là, moi, j'ai toujours vécu dans cette atmosphère un peu de tristesse. Et puis surtout, on ne parlait de rien. On ne parlait de rien. Et nous, j'allais dire subissant, mais inconsciemment, cette tristesse, ben, on n'allait pas plus loin. Peut-être que, en supposant qu'il aurait existé à l'époque, les moyens, j'allais dire, de communication et les réseaux sociaux, ça n'aurait pas été pareil. Mais là, évidemment, et puis on se contentait, d'une information très, très, très laminaire. Et puis, vis-à-vis de nos parents, c'était aussi nos parents nous en parlaient pas, on n'allait pas les questionner. C'était une question de, presque, j'allais dire, d'éducation, entre guillemets. Voilà.
Mais parce que on était très proche aussi des événements, il a fallu du temps aussi pour que...
Oui, il a fallu du temps, mais je m'aperçois quand même aujourd'hui encore, ça s'estompe fort heureusement, mais il y a encore ce que j'appellerais un noyau dur à prendre au sens tout à fait positif et sympathique, mais de personnes qui n'arrivent pas encore, qui restent encore dans cette forme de tristesse et de résignation. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense qu'il faut réellement pouvoir assurer la transition entre le temps du deuil et celui de l'histoire. Sinon, voilà.
Si les témoignages directs ne se sont pas exprimés tout de suite, il a fallu le travail d'une association, Peuple et Culture, pour collecter justement ces paroles afin que celles et ceux qui n'avaient pas été directement touchés par le drame puissent prendre conscience d'une part de l'organisation du massacre, mais surtout de ses conséquences sur une population tout entière. Dominique Grador est la présidente de Peuple et Culture.
C'est Patrick Tessandier qui était à l'époque salarié de Peuple et Culture qui a fait le choix, à la fois culturel et historique, de rencontrer les familles, de répertorier les disparus, ceux qui avaient été qui étaient revenus de camps de concentration, les familles des pendus, et qui a collecté toutes les photos déjà à l'époque, et qui a fait on avait édité un livre avec toutes les photos, avec un texte pour chacune d'entre elles, et cela à l'époque avait été projeté à Impasse La Traille à Tulle en présence des familles. C'était un moment extrêmement émouvant. Je crois que c'est le moment le plus émouvant que j'ai connu dans la commémoration du 9 juin.
Des non-dits, des silences, comme autant de blessures à la hauteur de la succession d'événements plus violents les uns que les autres.
J'ai un ami, par exemple, qui a été conçu 15 jours avant que son papa ne soit déporté. Son papa n'est jamais revenu. Donc quand sa maman a accouché, elle a accouché dans la honte, finalement, de porter un enfant sans père. pour le recevoir, pour le reconnaître. Et il a été élevé par sa maman, sa sœur et ses frères dans le déni de ces événements. Et justement, le jour où on a fait la projection à Peuple et Culture, il a vu son père sur ce grand écran, avec l'histoire qui était liée au drame qu'il avait, qui était le sien, et il a pleuré beaucoup. Beaucoup ont été dans le déni, parce que ça se passe dans une de façon un peu. Il y a ce tri où les gens ont été choisis, donc ceux qui n'étaient pas choisis culpabilisés, enfin, ou dans des familles, on le voit dans certains témoignages, un frère a été pendu, l'autre finalement a été épargné, voilà, un fils, un père, donc c'est extrêmement douloureux dans les familles, culpabilisant. Ça s'est passé en présence sans que personne ne puisse finalement se révolter, s'indigner. Donc là aussi, il y a une culpabilité à la fois des familles, des présents, et aussi sans doute de la ville, des habitants de la ville. Voilà. Et puis après, il y a eu la libération, je pense que c'était un autre temps. Et donc finalement, oui, le silence et la douleur. Il y a un film qui s'appelle comme ça, et je pense que c'est ça, c'est le silence et la douleur.
Aussi, depuis une semaine, quelque chose a changé sur le monument du haut lieu de Queuil. L'endroit où les corps des suppliciés ont été ensevelis était une ancienne décharge. Depuis, c'est un lieu de recueillement, bien sûr. Et ici, depuis une semaine, les visages des suppliciés et des déportés figurent à côté de leur nom. Une façon d'humaniser un petit peu plus ce lieu de mémoire, estime Dominique Grador.
Chacun connaissait l'histoire intime des siens, mais qu'elle n'était pas suffisamment partagée. Je crois que le fait qu'il y ait des visages, je pense que ça va rendre, pour tout citoyen, toute personne qui se rend sur ce lieu, voilà, ça va rendre humain, je crois, cette histoire. C'est l'humanité, il faut la rechercher tout le temps si on veut finalement que ça ne se reproduise pas.
Et que l'on ne l'oublie pas non plus quelque part.
Voilà, il ne faut pas oublier. Et puis l'horreur, c'est malheureusement, ça touche des êtres humains. Et donc il faut aller rechercher l'humanité chez ceux qui ont été victimes d'une telle violence.
Retrouver les photos des suppliciés et des déportés est un travail de longue haleine. Commencé par Peuple et Culture, il s'est poursuivi cette année par les archives municipales de Tulle, dont Nicolas Giner est le directeur.
Aujourd'hui, on a 163 photos. On a pu donc retrouver dernièrement la 163e photo. On est encore en recherche, on continue, parce qu'on pense que pour une dizaine d'entre eux, des victimes, on peut encore en retrouver. Donc on continue le travail et de toute manière on poursuivra. Et même si ce n'est pas aussi intensément qu'on a pu le faire les derniers mois, ce sera toujours en fil rouge.
Parce que ce travail a été long pour pouvoir retrouver des photos des victimes.
Ça a été un gros travail de recherche auprès des familles, avec la généalogie, avec l'état civil, avec Internet. Et on est heureux, on a été heureux à chaque fois de retrouver ces personnes-là.
Et en fouillant dans les archives, de nouvelles informations ont sauté aux yeux des chercheurs.
On a retrouvé des éléments, effectivement, sur des personnes, et notamment concernant les déportés qui ne sont pas mentionnés sur le monument. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est que peut-être l'année prochaine ou dans les deux ans, on puisse trouver une solution pour qu'eux aussi soient mentionnés ici, à la fois par l'inscription de leur nom et par la présence d'une plaque.
Alors pourquoi ces noms ont été oubliés? La question reste toujours en suspens.
Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas toujours des réponses, et là ça en fait partie. Et pour le coup, en plus, c'était connu, et c'est connu depuis longtemps qu'il y a des personnes qui ne sont pas mentionnées sur le monument. Pourquoi rien n'a été fait? Pourquoi ces noms n'ont pas été inscrits? Pourquoi je ne sais pas. En tout cas, l'objectif, c'est qu'à terme, et l'année prochaine au moins, où on puisse rétablir cet oubli, quoi. Peut-être qu'il peut y en avoir d'autres, mais ce ne sera pas dans de grandes proportions. Ce sera peut-être deux ou trois de plus, je pense. On n'arrivera pas sur des... Il ne manque pas 50 personnes, mais voilà, effectivement, il manque 7 à 8 personnes. Oui, ça, c'est certain. Pour 7 ou 8 d'entre eux, c'est évident qu'ils en ont fait partie. Le matin du 9 juin, ils étaient dans le tri. Ils auraient très bien pu être parmi les suppliciés. Donc voilà, ils ont été épargnés le 9 juin, mais ils ont été déportés le 10. Donc ces personnes-là, qui auraient très bien pu être des suppliciés, méritent d'être aux côtés des déportés ici présents.
Ce dimanche 9 juin marquera donc le 80e anniversaire du massacre de Tulle. Des cérémonies au cours desquelles 99 tresses de fleurs seront accrochées au balcon en mémoire des hommes qui y ont été pendus. Le lendemain, lundi 10 juin, le président de la République, Emmanuel Macron, se déplacera à Tulle pour rendre hommage aux suppliciés et aux déportés. Il se rendra dans l'après-midi en Haute-Vienne, à Oradour-sur-Glane, où cette même division SS d'Astreich a commis l'un des plus grands massacres de la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de ce 53e numéro du quart d'heure corrézien. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien. L'émission est à retrouver sur nos sites bramfm.com, rcf.fr et radiograndbrief.fr.